Chapitre 16. Julie avait réussi à détecter, dans les alvéoles en mousse, trois trous profonds. L'un à droite du lavabo, le deuxième à l'autre extrémité, près du tableau, le dernier au milieu de la porte. Ils étaient minuscules, mais d'un diamètre suffisant pour qu'une fléchette en sorte ou qu'un œil s'y glisse. Et surtout, ils étaient bouchés de l'autre côté par le même genre de mousse. Elle pouvait juste insérer l'index et l'effleurer. C'était donc de cette façon qu'il l'observait. Les trois orifices permettaient un contrôle total de l'espace. Elle aurait beau se recroqueviller dans un coin ou s'allonger contre un mur, il n'existait aucun angle mort. Cela signifiait que son ravisseur pouvait scruter le moindre de ses faits et gestes, la voir en train d'uriner, de se laver, de dormir ou de pleurer. Il pouvait aussi la shooter à distance avec son poison, qui lui faisait perdre conscience en un claquement de doigts. Là, dans cette prison conçue par un taré, chaque réveil était pire que le précédent. Elle oubliait chaque fois où elle était l'espace d'un instant. Les paupières closes, elle s'imaginait dans sa chambre, chez elle. Elle avait fait un cauchemar, une histoire de trac, de cris, de faciès tordus. Mais elle allait remonter son volet roulant, le soleil allait baigner la pièce de ses rayons chaleureux et sa mère allait l'appeler pour le petit déjeuner. Sauf que ses yeux s'ouvraient toujours sur un sinistre kaléidoscope. Son regard se posait d'abord sur un article en particulier, celui de cette fillette de 3 ans qui avait échappé à la vigilance de sa mère et s'était noyée dans un lac. Éclairée par l'ampoule restée allumée depuis son arrivée, Julie était allongée sur son matelas, perdue dans ses pensées, quand elle perçut un raclement au bout du couloir. Elle s'y précipita comme un chien se rue sur une gamelle de croquettes. Un plateau chargé de nourriture était apparu à l'intérieur du rectangle peint au sol. Ce même plateau qui avait constitué sa récompense quand elle s'était résignée à coller l'article de sa propre disparition sur le tableau. Elle considéra les victuailles, un bol de lait, un yaourt, des viennoiseries et une cuillère en plastique. C'était donc le matin. Puis elle se jeta par terre et se plaqua contre la trappe par laquelle il introduisait 3 fois par jour tout ce dont elle avait besoin pour vivre. Elle ne bougea pas d'un pouce. Il devait y avoir un verrou de l'autre côté.
« Pourquoi tu te caches? Ouvre cette porte !»
Jamais elle n'avait aperçu une main ou un visage. Pas un son de voix. Le tortionnaire dévoilait la fente, poussait son colis, refermait aussitôt. Elle avait compris, pour avoir patienté très longtemps, que le repas suivant n'arrivait que si elle reposait le plateau pile au même endroit, dans le fameux rectangle plateau-linge tracé au sol, pour qu'il puisse le récupérer sans entrer. Elle alla s'asseoir sur le lit, sa livraison sur les genoux. Des croissants frais. Ça signifiait que ce cinglé avait marché dans la rue, souri à des gens, salué la boulangère. « Bonjour madame, comment allez-vous aujourd'hui ? Il me faudrait 2 croissants, s'il vous plaît. » Alors qu'il séquestrait au même moment une jeune fille. Elle entendait presque la vendeuse lui répondre en minaudant
« Bonne journée, monsieur Traskman, et écrivez-nous de belles histoires !»
Peut-être même avait-il des voisins, des enfants qui jouaient dehors, à quelques mètres de là. Un type qui entretenait son jardin et qui le saluait avec courtoisie, loin d'imaginer ce qui se passait juste à côté. Julie découpa sa viennoiserie en minuscules morceaux, mâcha longuement pour faire durer son petit déjeuner, parce que, après, il n'y aurait rien d'autre à faire, à part attendre le prochain repas. Jusqu'à ce que, peut-être, il se décide enfin à se montrer. Elle mastiquait consciencieusement, percevait chaque grincement de dents. Aucun bruit ne perturbait le silence lugubre de sa geôle, hormis le vrombissement du ventilateur accroché au plafond. Quelque chose dedans heurtait les pales, un bout de métal ou un truc dans le genre. Elle avait essayé de se couvrir la tête avec son oreiller la nuit précédente pour ne plus entendre cet insupportable cliquetis, mais celui-ci, comme l'éclairage permanent, prenait désormais toute la place sous son crâne. Combien de temps allait-elle tenir avant de devenir dingue ? Quand elle eut fini, Elle replaça le plateau dans son rectangle, malgré une furieuse envie de le fracasser contre la porte. Mais l'œil espion armé de ses fléchettes anesthésiantes veillait sans doute. Alors elle renonça sagement. Ne pas le provoquer, même si elle rêvait de planter une aiguille à tricoter dans l'un de ses trous. Paraître conciliante, pour qu'il vienne au moins lui parler. Julie tenta de se contrôler, mais ses doigts tremblaient. Elle avait des palpitations. L'angoisse ou cette saloperie qu'il lui injectait. Elle se leva et commença à arpenter la pièce. Ça lui fit du bien. À force de déambuler, elle sut le nombre de pas exacts qu'il y avait entre chaque meuble, chaque angle. 21 pas en tout pour faire le tour de l'espace. Elle se donna pour but de le faire 50 fois de suite. Il fallait toujours se fixer des objectifs. Elle l'avait appris grâce aux compétitions sportives. Ils aidaient à résister, poussaient à se battre et offraient une perspective. Les premiers tours, elle compta. Puis elle oublia de compter. Elle oublia même qu'elle marchait. Elle pensait à sa vie d'avant, au lycée, à ses amis, à son chien, à ses parents. Elle voyait la neige des sommets et les cimes des pins dans la vallée. Elle dévalait les pentes à pleine vitesse, s'enivrant de l'odeur de la terre humide. Julie imaginait son père scrutant chaque parcelle de forêt à sa recherche, criant son prénom au bord des rivières et des ravins. Pas du genre à lâcher le morceau, son père. Et puis elle songea à sa mère, qui détestait quand elle s'éloignait à vélo, seule dans la montagne. La crainte d'un accident, d'une mauvaise chute. Si seulement elle pouvait leur faire savoir qu'elle était là, vivante, indemne, qu'elle rentrerait bientôt. Elle aurait donné n'importe quoi pour pouvoir les rassurer. Tout ça, c'était sa faute. Jamais elle n'aurait dû s'approcher de ce malade. Pourquoi avait-elle croisé son chemin d'ailleurs? Pourquoi être ensuite allée au chalet du lac Noir sans en parler à personne? Pourquoi lui avoir laissé croire qu'il pouvait faire d'elle son jouet? Qu'elle avait été naïve. Il aurait suffi qu'elle mette sa copine Louise dans la confidence pour qu'un lien, même ténu, soit établi avec lui. Son père était un excellent enquêteur. Il aurait exploré cette piste.
« Excuse-moi, »
dit-elle tout haut, espérant que son tortionnaire l'écoutait.
« C'est moche la façon dont je t'ai abandonnée, je le sais. Moche et lâche. Mais j'ai eu peur. Peur de tout perdre. Peur de quitter ma vie. Je regrette tellement. Les choses auraient dû se passer autrement. On peut en discuter si tu veux. Essayer de trouver une solution. » « Je suis sûre qu'il y en a une. »
Rien ne se passa. Alors elle alla se réfugier sur son lit et elle pleura. Elle craquait souvent. Elle se savait faible, mais les larmes arrivaient toutes seules. Un profond désespoir l'étreignait. Elle ne voyait aucun moyen de sortir de cette prison. Elle pouvait taper, elle pouvait hurler. On ne l'entendrait pas. S'il ne lui apportait pas à manger, s'il coupait l'eau, elle mourrait. Il était la main qui nourrissait le poisson dans le bocal. C'était aussi simple que ça. Elle était sous l'emprise de Caleb Traskman, et elle avait bien conscience qu'il ne prendrait pas le risque de la relâcher vivante. Il avait bâti tout ça pour elle. Des ouvriers étaient venus, sous ses ordres, habiller ses murs de mousse insonorisante, raccorder cet endroit à l'eau et à l'électricité. Et aucun ne s'était posé de questions. Aucun ne regardait les informations. Julie leur en voulait, à eux tous qui étaient libres, alors qu'ils étaient indirectement responsables de son malheur. Chaque fois qu'elle se laissait aller à ses sanglots, ça allait mieux après. Elle se surprenait même à être optimiste. Elle se persuadait que des centaines de gendarmes la recherchaient inlassablement avec des chiens renifleurs, qu'on parlait d'elle à la télé, qu'il y avait des témoignages, une importante mobilisation grâce aux réseaux sociaux, que bientôt la porte s'ouvrirait et qu'elle serrerait ses parents dans ses bras. Ce serait le plus beau jour de sa vie. Mais la porte ne s'ouvrit pas ce jour-là, ni ceux d'après.